Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et nous allons commenter tous ces meilleurs moments d'RMC en compagnie de Rémi Barré, Thierry Moreau, Yael Mellul et Laurent Dandrieu. On va commencer avec un extrait des GG ce matin sur RMC. Êtes-vous choqué que Pierre Palmade sorte de prison? Hier soir, le juge d'instruction a demandé que l'humoriste sorte de détention provisoire pour raison médicale. Le parquet a fait appel, mais pour Zorabitant, il est temps d'arrêter de s'acharner sur lui.
Ça a été vraiment excessif la façon dont on a traité cette histoire, au-delà du fait que c'est vraiment triste qu'il y ait eu, j'allais dire, cet accident avec cette personne qui a perdu son bébé, mais quand même, quoi. La toxicomanie, c'est pas rien. Je pense que Palmade était en souffrance, même on n'a pas à lui pardonner, mais jusqu'à lui l'accuser de pédocriminalité, enfin bon, ça a été vraiment violent, mais je pense que pour l'homme, ça a dû être violent.
Pour l'instant, rien n'a été retrouvé dans cet appareil.
Oui, bien sûr, mais cette espèce de lynchage, d'inquisition un peu des réseaux, des gens en permanence pour qui que ce soit, ça peut nous arriver à nous, à n'importe quand, et je trouve ça vraiment indécent, quoi.
Et Yael Mellul, on a été trop dur avec Pierre Palmade?
Ah non, franchement, je trouve ça tellement indécent de parler de lynchage et d'acharnement sur la personne de Pierre Palmade et le mettant ainsi dans une place de victime en réalité.
Lui a demandé de se droguer et de prendre le volant.
Voilà, donc je veux dire non, la victime, c'est pas lui, hein. La victime, c'est cette maman qui a perdu son bébé enceinte de 7 mois, c'est cet enfant qui est défiguré. Voilà, c'est ça, c'est eux les victimes, c'est pas Pierre Palmade. Pierre Palmade, c'est quelqu'un qui est certes malade, c'est la toxicomanie, c'est une maladie, hein, mais dont jusqu'à présent, il a pas manifestement réussi à se défaire, puisque de son propre aveu, il a dit aux enquêteurs qu'il avait déjà pris...
Et là, ça lui permet de sortir de prison, en fait, quand même.
Je connais pas son... de ce qui est sorti dans les médias...
Vous avez été avocate, en fait, Yael.
Oui, absolument,
c'est courant, en fait, qu'on n'aille pas en prison parce qu'on a une addiction, parce qu'on est malade.
Non, c'est pas l'addiction qui fait manifestement, qui justifie sa sortie de détention. Ça a l'air d'être son état de santé. J'ai cru comprendre qu'il avait fait un AVC. J'ai aussi cru comprendre qu'il avait changé d'hôpital, qu'il allait subir une intervention chirurgicale. Donc, je sais pas,
j'ai tous les détenus sont logés à la même enceinte, c'est ça que vous dites, quoi.
Oui. Enfin, là, franchement, je crois pas qu'il y ait. Traitement privilégié. Maintenant, le parquet a l'air d'être d'un avis différent du juge d'instruction.
La justice suit son cours.
Il fait son boulot. Voilà, le parquet considère que Pierre Palmade doit rester en détention. Il y aura la décision vendredi. Moi, je peux pas en discuter plus que cela. J'ai pas connaissance des pièces, du dossier médical, j'en sais rien. D'abord, manifestement, dans cette affaire, il y a une confrontation entre le juge d'instruction et le parquet qui ne sont pas du tout d'accord.
D'accord.
D'abord, il ne s'agit pas de dire que Pierre Palmade est une victime. Effectivement, tu l'as rappelé, les victimes, elles sont celles qui ont perdu l'enfant. Première chose, il y a eu un traitement médiatique particulier.
Oui, c'est vrai.
C'est indéniable.
C'est vrai.
La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. On ne le sort pas de détention. Il était dans un hôpital devant la porte de laquelle, dans une chambre d'hôpital, devant la porte de laquelle il y avait 2 gendarmes, puisqu'il était placé en détention dans sa chambre d'hôpital. Là, ils ont levé la détention le temps qu'il aille se faire soigner dans un autre hôpital pour une opération dans un service de chirurgie cardiovasculaire. OK? Le droit, rien que le droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la détention provisoire ne doit pas être une pré-peine. Elle doit être quelque chose qui doit empêcher la réitération des faits, qui doit empêcher un certain nombre de choses. Il y a 3 temporalités qui sont en train de s'entrechoquer. Celle des victimes, et je comprends que les victimes, elles aient envie qu'il y ait une justice rapide et ferme. Ça, je comprends très bien. Il y a la temporalité de la justice, où effectivement le juge estime, lui, que la détention se justifie. Et encore une fois, c'est une détention particulière qui sera dans une chambre d'hôpital. Et la troisième temporalité, c'est celle des les médecins. Et c'est celle qui doit être primordiale. C'est les médecins qui décident et c'est les médecins, Dieu merci, qui ont la main sur cette histoire.
Mais parler de lynchage, moi, me paraît hallucinant parce que la procédure qui est suivie est la procédure normale qui est opposable à n'importe quel justiciable. Ce ne serait pas Pierre Palmade, ce serait exactement la même chose.
Sauf qu'il y en a très peu qui vont en détention provisoire après des accidents de la route, même après usage du stupéfiant.
Mais bien, ça a été
sauf qu'il est en état de récidive.
Bien sûr.
Donc, ce qui justifierait quand même d'être en détention provisoire.
Ça a été justifié juridiquement. Le juge d'instruction n'est pas d'accord. Le parquet fait appel. La chambre d'appel va statuer. On est dans le cadre du droit. Il n'y a pas de lynchage qui soit là-dedans.
Charles Matin, ce matin sur RMC, on va parler aide alimentaire. Comptez-vous vraiment sur le gouvernement ? Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a reparlé du chèque alimentaire, sans donner beaucoup de détails. Ce chèque devrait faire l'objet d'une expérimentation dans les prochains mois. Mais pour Jamy Belkiri de l'association Famille de France, il y a urgence à le mettre en place.
On n'est plus au temps où on réfléchit. C'est terminé. Les gens, à ce jour, sincèrement, ont faim. Il y a des personnes âgées qui ont un repas par jour. La viande et le poisson, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut le faire dans le mois qui suit, si ce n'est pas pour dire dans l'immédiat, parce que ce chèque a été déjà proposé il y a plus d'un an. Depuis décembre 2021, les tarifs de l'alimentation, les tarifs d'énergie augmentent sans cesse. Il y a urgence à réagir rapidement.
Ça doit être une priorité du gouvernement de mettre en place l'aide alimentaire, le chèque alimentaire pour vous, Laurent Mandrieux, alors même dire que les distributeurs des grandes surfaces ont dit qu'ils allaient rogner sur leurs marges.
Oui, moi je pense que la priorité ce serait surtout d'agir sur les causes structurelles de l'inflation et pas de mettre en place des politiques comme ça, pour des rustines qui en plus changent tous les 36 du mois et puis personne ne finit par rien y comprendre. Et donc je trouve que l'incurie du gouvernement c'est de ne pas s'attaquer aux vraies causes de l'inflation et notamment cette tarification du coût de l'énergie qui est aberrante, dont tout le monde sait qu'elle est aberrante, qu'il faut renégocier, remettre à plat d'urgence et qui permettrait
la nourriture qui a augmenté de 15%.
La nourriture elle augmente parce que la justification qu'on donne à cette inflation du côté des producteurs c'est l'augmentation principalement des coûts de l'énergie. Par ailleurs, je suis pas sûr que la direction de la consommation fasse son boulot pour vérifier que toutes les hausses de prix sont effectivement justifiées et qu'il n'y a pas des effets d'aubaine dans la grande distribution.
Thierry Moreau, il est nécessaire ce chèque alimentaire ou alors c'est encore un chèque de plus quoi?
Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on a l'impression que le gouvernement est très embêté avec cette histoire de rapport entre le consommateur et l'alimentation. Ils ont d'abord essayé de créer un panier, puis ils se sont compris que ça serait une usine à gaz. Donc, du coup, ils mettent un label. Du coup, c'est vrai. Et donc, en conséquence, ils mettent un label sur les démarches des distributeurs qui, depuis longtemps, ont mis des prix coûtants sur un certain nombre de produits de première nécessité. Donc, on sent qu'ils se rattrapent un peu aux branches. Là, on sent aussi qu'ils essaient aussi de se rattraper aux branches.
Ils font des efforts, quand même.
Ils font des efforts, mais je suis un peu d'accord avec Laurent. C'est un peu des rustines. Et on ne s'attaque pas aux vraies causes. L'autre jour, je ne sais plus quel député expliquait que sur les pâtes, par exemple, la grande distribution marge à 30 ou 40%. 30 ou 40% sur les pâtes. Alors qu'il y a eu une augmentation monstrueuse. Alors que, oui, sauf que c'est là où il y a eu le plus d'augmentation parmi les produits qui ont le plus augmenté. Donc il y a un moment, il faut effectivement que le gouvernement agisse là où effectivement les distributeurs abusent. Voilà.
Mais c'est au gouvernement d'agir ou c'est au distributeur pour vous, Yael Mellul?
C'est au gouvernement. Là, ils ont complètement. Le gouvernement a complètement délégué, abandonné en fait cette problématique.
C'est-à-dire quand on a vu la entreprise privée.
Parce qu'il faut s'attaquer. Et vous l'avez dit, les deux d'ailleurs. Faut s'attaquer aux problèmes structurels. Là aujourd'hui, on a vu la conférence de presse. On a tous vu la conférence de presse de Bruno Le Maire avec cette espèce de logo là. C'est quoi? C'est quoi une énième encore? Opération de opération.
Pas un numéro vert
avec le petit col roulé là. Enfin, je veux dire, c'est oui. Ça.
C'est pas quand est-ce qu'il va l'abandonner, dire ce col roulé.
Peut-être au printemps. et en fait, on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui que les grands distributeurs, ils encouragent les grands distributeurs à avoir les prix les plus bas possibles. Mais par rapport à quoi en fait? Par rapport à quel mois de l'année? Si c'est, est-ce qu'on va revenir à des prix du mois de juillet 2022, du mois de
faire,
voir ce qu'ils peuvent faire. Quid aussi des petits commerçants? Non, mais les petits commerces de proximité, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc aujourd'hui, il faut s'attaquer à la racine du problème. Et la racine du problème, tu l'as dit, c'est la crise énergétique.
Il y a quand même un truc qui est hallucinant, qu'il y a eu une énorme tension sur le prix du blé au moment du commencement de la guerre, puisque l'Ukraine est le principal producteur mondial de blé. Et cette crise de cette tension sur l'approvisionnement en blé s'est résolue parce qu'il y a eu un accord entre la Russie et l'Ukraine. Et finalement, il y a plus de problème d'approvisionnement en blé. Est-ce que les prix ont baissé pour autant? Non. C'est hallucinant. On marche sur la tête.
Les GG ce matin, les stars ont-elles raison d'évoquer leur maladie en public alors que c'était autrefois un tabou? De plus en plus de personnalités n'hésitent plus à parler de leurs problèmes de santé. On se souvient de Bernard Tapie ou encore Jean-Pierre Pernaut. Dimanche dernier, c'est le chanteur Florent Pagny qui a reparlé sur TF1 de son cancer. Une parole qui est très importante pour le doc des GG, Jérôme Marty.
Ce qui est important dans les paroles d'hommes publics et de femmes publiques sur le cancer, c'est ce focus, cette lumière qu'on met sur cette armée des invisibles que sont les patients porteurs de ces pathologies, quoi. C'est 400 000 nouveaux cas par an, tu l'as dit, c'est 4 millions de personnes, c'est important d'en parler pour dire aux gens, un, qu'ils sont pas seuls, deux, que effectivement ça a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui il faut banaliser cette pathologie, et puis montrer par quoi on passe, parce que oui, même si on a fait énormément de progrès, une chimio, c'est dur. Et c'est important ce que tu as dit, c'est pas une question de courage, quoi.
Non.
Chacun exprime sa maladie, chacun a sa façon d'exprimer sa maladie, et c'est pas parce que tu parles que tu es plus courageux, parce que ça aurait tendance à montrer celui qui le fait pas, ou lui dire, mais vous manquez de courage. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Chacun exprime sa maladie comme il le peut.
Thierry Moreau, il a raison, Jérôme Marty. C'est important, finalement, que les personnalités parlent de leurs problèmes de santé.
Alors, ce qui est important, c'est que les cancéreux soient plus stigmatisés comme ils l'ont été à une époque. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque fois qu'une personnalité mourait ou quelqu'un mourait, on disait, il est mort déçu d'une longue maladie.
C'est vrai.
Non, on peut mourir d'un cancer.
Ça me hérisse.
Moi, j'ai perdu mes deux parents d'un cancer, mon père l'année dernière. J'ai perdu ma tante la semaine dernière encore d'un cancer. Donc, c'est quelque chose dont il faut parler parce que, après, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Florent Pagny il y a une dizaine d'années où j'étais à déjeuner à côté de lui, où il se plaignait de payer trop d'impôts et il disait « j'en ai ras-le-bol d'être rançonné, etc. » Je trouve qu'aujourd'hui, il a dû changer d'avis sur ce sujet parce que la médecine française, quand il revient en France pour se faire soigner, elle est là pour s'occuper de lui. Et je suis certain, parce que je pense que c'est quelqu'un de bon et de bien, je suis certain qu'il a changé d'avis sur le fait que ses impôts servent à quelque chose. Et je trouve très bien qu'il médiatise parce qu'encore une fois, stigmatiser les cancéreux, c'est un truc. Et dans le monde du travail notamment, ils sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup stigmatisés. Et ça, c'est un vrai problème.
Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un truc du passé que j'ai jamais compris d'ailleurs. Le fait que ça soit transformé en maladie honteuse, c'est un truc que ça.
C'est pas honteux, mais en fait, c'est un tabou.
C'est parce que tu es perçu comme faible par ton employeur.
Oui. Bon, en tout cas,
donc moins actif et moins profitable.
Assez longtemps, ça me paraît vraiment un truc d'autrefois. Et puis. Je suis pas certain que si demain je chope un cancer, ce qu'à Dieu ne plaise, ça me console de savoir que Florent Pagny en a un aussi. Et je me sens moins seul.
Je
connais des tas de gens dans mon entourage qui en ont. J'avais pas besoin de Florent Pagny pour sentir que je suis pas seul à avoir un cancer. Je trouve ça un peu grotesque.
Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais ça veut dire en fait Florent Pagny en parle. Donc en fait, à un moment, les gens peuvent se dire je vais pas dire que c'est le porte-parole, mais par exemple, Bernard Tapie en a parlé extraordinairement bien pendant 3 ans en essayant de dédiaboliser, de banaliser ça.
J'ai pas l'impression que ce soit diabolisé.
Il n'y a pas que ça non plus. C'est que Florent Pagny a peut-être aussi besoin du soutien de ses fans, des marques d'affection. Quand il en parle, il reçoit des messages. Et ça, je pense que c'est dans une situation d'une grande difficulté quand même. Ça peut lui faire du bien.
Il est reparti vivre en Patagonie.
Il
avait eu envie d'avoir des messages.
Les internets. Hein.
Oui, non, mais bien sûr.
Là où Yael a raison, c'est qu'il y a deux attitudes devant le cancer. Il y a des gens qui se réfugient, qui parlent très peu à leur entourage, qui préfèrent vivre ça seul et l'assumer jusqu'au bout et ne pas en parler. Et puis ceux qui ont besoin d'être soutenus. Je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là que se place le
Pagny.